Et Birchut HaKadosh Baruch Hu. Ils doivent devenir sous la souveraineté de Dieu. Et d'ailleurs, on apprendra de l'autre part que pour Israël, il n'y a que deux possibilités, il n'y a que deux éventualités. Ou être Eved de Paro ou Eved Hashem. Ou l'un ou l'autre. Et nous avons énormément de versets qui disent « Je vous ai fait sortir de la Avdout d'Égypte pour que vous soyez mes Avadim. » Mais la différence entre Avdout et Avoda. Est-ce que c'est clair? Dans la Avdout, on est Oved. On est Eved. Et dans la Avoda, on est Oved. Bishut Ratzman, Srikhim, Yotan, Nirnazim, Meshut, Rajavokhu, Velo, Yim, Kemoshe, Arumot, et ils ne seront pas comme les autres nations. Vezeu, Shama, Vela, Karti, Etrem, Niliam. Et c'est ce que dit le verset, et je vous prendrai pour moi comme peuple. Vero, Pirou, Shelu, Arba, Devarim, Manemarim, Khan. Et aussi, une autre explication de ces quatre niveaux qui sont dits ici. Les filles, Shahu, Israël, Bemitraim. C'est parce que Israël se trouvait en Égypte. Veraoui chez Yum et Shurbadim. Suivez bien, c'est important. Et le seul fait qu'il se trouve en Égypte, Raoui chez Yum et Shurbadim. Il était, traduisez-moi, Raoui. Mar. J'ai écouté ce titre, mais ce n'est pas encore ça. Raoui chez Yum et Shurbadim. Entendez ça en hébreu. Mar. C'est un peu trop fort. Raoui, Penema. Exact. C'est l'idée de sa convenance. Ça veut dire, l'idée est très claire. Le Maharal nous dit ici, le seul fait qu'il est en Égypte, c'était inévitable qu'il soit servi. Qui, vous avez compris ce que je dis là? Qui peut expliquer pourquoi c'était inévitable? Et là, je me réfère à Maïmonide, dans les Shmona Pakim. Après, vous passez à la colonne d'en bas. Hein? La première colonne d'en bas. Alors, on est sur ce point-là qui est très important. Le seul fait qu'ils étaient en Égypte, nous dit le Maharal, rendait inévitable le fait qu'ils soient asservis. Comment s'expliquer ce mécanisme-là? C'est comme si ça justifierait la xénophobie du Front National en France. Oui, le mot Raoui ici. Si Le Pen lisait ça, il se frotterait les mains. Qui peut expliquer? Vous suivez ou...
Oui, c'est un processus tout à fait normal, malheureusement.
Eh bien, explique comment.
Parce que d'abord, on devient de plus en plus nombreux, alors les citoyens du pays ne peuvent plus nous voir.
C'est exact, mais ça ne suffit pas. Il y a un phénomène de saturation. C'est exact. De plus en plus nombreux, ça déclenche un phénomène de saturation. Mais pourquoi? Et les Français ne sont pas nombreux? Et les Français ne sont pas nombreux?
Oui, mais nous, on est en Corée.
Ah, ils sont restés juifs. Voilà. C'est-à-dire, le fait de s'entêter à rester juif. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ceux qui s'entêtent le plus à rester juifs, ce sont ceux qui sont le plus déjudaïsés. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, vous avez remarqué ça? Il y a de quoi rendre furieux les goyim.
Il en reste 40%. Hein? Il en reste encore
40%. Je ne comprends pas. Où est la proportion de quoi?
Je veux dire qu'il reste tel que ils sont encore judaïsés. Même
oui, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire judaïsé? Je vais vous dire... J'ai remarqué, moi, j'ai vécu 20 ans en France. Donc, je ne vous parle pas de mes 20 ans en Algérie, 20 ans après. 20 ans en Algérie, j'étais chez moi. Nous avions des villes juives, comme au Maroc, comme en Tunisie. On n'était pas chez les goyim. C'est eux qui étaient chez nous. D'ailleurs, les juifs étaient en Afrique. Les juifs étaient en Afrique du Nord, bien avant les Arabes, colchéquins avant les Français. Et ils le savaient, d'ailleurs. Mais, bon, c'est une autre histoire. Mais j'ai remarqué cela. Les goyim qui avaient tendance à être anti-juifs ne l'étaient pas vis-à-vis des juifs authentiques. Mais les juifs authentiques, ce n'étaient pas les juifs de ghetto. Ça, c'était des caricatures de juifs à leurs yeux. Les juifs authentiques, c'était ceux qui se réclamaient de l'identité nationale juive. Et la preuve nous est formée, nous est donnée par la colonie israélienne à Paris. Elle n'est pas regardée du tout de la même manière que la communauté juive. Je ne sais pas si c'est clair, la différence. Oui, je me rappelle du temps où il y avait écrit dans les métros à Paris « Vive Israël, abat les Juifs ». Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Mais tout ça, le Maïmonide l'a expliqué. D'ailleurs, il y a un phénomène de saturation, mais qui vient de cet entêtement à être un corps étranger. Et alors donc, c'est inévitable. Il y a une espèce de mécanisme sociologique qui joue, et le Maharal très finement l'indique. Mais la source, c'est dans le Mishmoné Prakim du Rambam, chapitre 8. Je veux dire, sur quel sujet ? C'est lorsque Maïmonide pose la question, puisque c'est Dieu qui a endurci le cœur du Pharaon, pourquoi ensuite il l'a puni d'avoir été méchant avec les Hébreux ? Vous voyez quelle est la question qu'il pose. Et alors, il revient à ce verset qu'on a lu tout à l'heure. « Yadoar tedar ki geriyeza achavetolahem ba'avadum inotam » Dieu annonce à Abraham, tu sauras, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre, tu sauras que ta descendance sera étrangère, et donc c'est inévitable qu'on les persécutera. Sache-le. Vous avez compris le problème ? Alors le Maïmonide l'explique de cette manière. C'est pas que Dieu a décidé que les Égyptiens vont persécuter les Hébreux. C'est pas Dieu qui a décidé que les Égyptiens vont persécuter les Hébreux. Dieu révèle à Abraham une loi des sociétés humaines. Une minorité étrangère qui s'entête dans sa différence sécrète, induit, je sais pas comment on dit, et cause de la persécution xénophobe. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit actuellement en Europe, pas seulement avec les minorités juives. Les minorités juives sont des cas particuliers. Je vous dirai pourquoi, à mon sens. Mais on voit ça déjà avec les autres minorités étrangères dès qu'il y a un phénomène de saturation de nombre. Mais avec la minorité juive, il y a un cas particulier aggravant, c'est que les juifs, avec une naïveté extraordinaire et une maestria respectable, se prétendent plus autochtones que les indigènes. Je ne sais pas si vous voulez dire. Un turc en Allemagne, c'est un turc en Allemagne. Un juif en Allemagne, c'est un allemand. Plus allemand que l'allemand. C'est exactement la même chose ailleurs. Vous voyez de nouveau que ce problème ne se réfère pas à une catégorie religieuse, mais nationale. Enfin, les sociologues diraient ethnique, minorité ethnique. Et les problèmes contemporains de l'Europe actuelle, c'est des problèmes de minorité ethnique, beaucoup plus que des problèmes de minorité religieuse. Puisque, par exemple, entre Serbes et Croates, c'est les chrétiens. Eh bien, le fait que les uns soient orthodoxes et les autres soient catholiques, vient d'une différence ethnique et non pas d'une différence religieuse. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit là. De la même manière que la différence entre les Portugais et les Espagnols, ce n'est pas une différence religieuse, c'est une différence ethnique. Etc. etc. Oui. Et alors, voilà donc ce que nous dit le Maharal ici. Chez Aré, on continue, hein, chez Aré, l'Oaïe et l'Israël, Shum Yeshiva Miyochedet, puisque il n'y avait, j'ajoute, en ce temps-là, à Israël, aucun lieu de résidence particulier. Chez l'Oaïe Alaïm Eretz Miyochedet, il n'avait pas de pays particulier, Kemoshe Yeshlecholuma Veuma, comme il y a pour toute nation, Veayu Moladim Be'eretz Lolaïm. Et ils sont nés dans un pays qui n'est pas le leur. C'est ce cas particulier d'Israël qui se constitue en nation d'abord à l'étranger. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. C'est annoncé ce matin qu'on m'a posé la question. Goy migre goy. Israël est devenu goy, une nation, au-dedans d'une autre nation. Il faut donc retenir cela. L'Égypte a été la matrice d'engendrement de la nation hébraïque, comme nation. Est-ce que c'est clair ? De la même manière que, je dirais en schématisant, l'Europe a été la matrice d'engendrement de la nation israélienne comme nation. Et plus que ça, c'était la mer tout court. Bon, c'est devenu l'amertume par la suite. Je veux dire, C'est devenu marâtre. Mais c'était la mer. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais comprenez bien ça. De la même manière que l'Europe a été la matrice de la nation israélienne. Et d'ailleurs, on s'en ressent, puisque bien que tous les juifs du monde ont rejoint Israël, il y a encore une marque de coquetterie européenne à l'anglo-saxonne, qui économiquement est américaine, mais qui en été britannique, qui grève encore le pays. Ça, c'est un autre thème, et qu'il faut bien avoir à l'esprit. C'est-à-dire, Israël, c'est Israël de l'humanité. Et l'humanité engendre Israël. Et les moments de fin d'exil sont des moments d'accouchement. Et c'est comme ça que le Midrash en parle. L'accouchement de la sortie d'Égypte a été un accouchement au forceps. Beat Hazakov Zilwa Lintuya. C'est clair. Et pourquoi? Parce que l'enfant ne voulait pas naître et la mère ne voulait pas le laisser naître. Et c'est ce qui est arrivé en Europe. Je vous ai cité tout à l'heure les Hevle Leda. C'est ce soir que je vous ai cité ça. Okay, c'est exactement ça. Mais Judas Lévi l'explique à sa manière. Quand le temps, le moment de l'accouchement arrive, s'il se produit cette catastrophe, que ou l'enfant ne veut pas naître, ou la mère ne veut pas laisser naître l'enfant, l'un empoisonne l'autre et réciproquement. L'enfant empoisonne la mère, qui empoisonne l'enfant, qui empoisonne la mère, qui empoisonne l'enfant, qui empoisonne la mère. Et ça s'appelle l'antisémitisme. C'est clair? Vous voyez pourquoi le Midrash choisit ces images? Et parce que ces images sont beaucoup plus que des images. Hier, nous avons un Midrash très, très célèbre qui parle de la sortie d'Égypte exactement comme d'un accouchement. Et avec le passage par les eaux. Tout. Et en détail. Alors, on continue. Puisqu'ils sont Beret Lolaïm. Alors, c'est vraiment une indication extrêmement lucide, très réaliste et très, je ne sais pas comment dire, très, très grave. Ce n'est pas du tout pessimiste, c'est réaliste. Ça veut dire qu'il fallait qu'Israël ait la sagacité de décrocher quand les premiers signes arrivent. Lorsque la symbiose a réussi, il faut décrocher. Or, malheureusement, et je vais vous donner d'autres exemples, chaque fois que la symbiose a réussi, on s'est entêté à s'incruster, à s'incrister, il faudrait dire. À s'inquister. Je vous donne deux exemples dans le temps contemporain. Le judaïsme espagnol. La symbiose judéo-espagnole a été une réussite absolue. Les familles sfarades peuvent encore en témoigner. Sfarades espagnoles, okay? Au point qu'il y a une fidélité aux judéo-espagnols chez les juifs qui ont connu cette civilisation qui est extraordinaire. Et ça a été vraiment une réussite comme symbiose. Et alors, c'était le moment de décrocher. Et nous avons beaucoup de sources, en particulier dans le Torah Tmima. Si vous voulez, tout à l'heure, on va prendre 5 minutes pour ça, vous donnerez le livre dans Devarim, je vais vous indiquer dans quel verset. Mais une minute, je voudrais finir le raisonnement, j'ai oublié. Au lieu de décrocher et de revenir être Israël pour l'humanité entière, et la messianité d'Israël aurait eu le visage culturel espagnol, on s'est entêté à être espagnol. Alors les Espagnols ont décidé de dire aux Juifs: on va vous montrer qu'est-ce que c'est des Espagnols, l'Inquisition. Et qu'est-ce qu'ont fait les Juifs espagnols? Ils sont allés vitaliser Amsterdam, Salonique, Casablanca, Tunis, etc., etc. Et Jérusalem, ah ben oui, quand le Messie viendra. Vous voyez ce qui s'est passé? Et les grands rabbins d'Espagne, comme Maïmonide, comme Judas Lévi, comme beaucoup d'autres, et surtout Nahmanide, ont eu beau leur dire, si déjà Jérusalem, ils n'ont pas été suivis. Vous avez compris le drame. Bon, le deuxième exemple de la symbiose réussie et de laquelle il aurait fallu décrocher, c'est l'Allemagne. Au siècle dernier, la symbiose judéo-allemande a été une réussite culturelle fantastique. On fait semblant de ne pas s'en rendre compte. Mais c'est cette symbiose qui s'est entêtée à rester sur place qui a déclenché le nazisme. Et les nazis ne se sont pas gênés pour le dire à leur manière. Il y a eu, dans tous les domaines, la philosophie, la littérature, je ne sais pas comment dire, d'ailleurs ça a été fait, il y a des livres qui parlent de la pensée judéo-allemande de la fin du XVIIIe siècle et surtout du XIXe siècle. Mais des grands personnages comme les Autrichiens, par exemple, mais surtout les grands Allemands, comme Heine, c'est comme ça qu'on dit en allemand. Et c'est lui qui a découvert cela. Le judaïsme, ce n'est pas une religion, c'est un malheur. Quand on veut rester allemand. Et était très allemand. Vous voyez ce qui est arrivé. Or, aujourd'hui, la synthèse judéo-goy est en train de réussir, en particulier en France. En France, vous avez un phénomène de pensée judéo-française faramineux. Les grands penseurs français sont juifs, il faut le savoir. Et les Français le savent. Vous avez toute cette bande qu'on appelle les nouveaux philosophes. Et un phénomène, en tout cas au niveau de la littérature en Amérique. La symbiose judéo-américaine a pris de manière telle qu'énormément de mots juifs, à travers le yiddish, beaucoup plus que l'hébreu d'ailleurs, sont passés dans l'américain, bien, de manière qui va de soi. Et alors, je ne vais pas jouer les Cassandres, mais à partir du moment où une symbiose de ce type est en train de prendre, il faut se méfier. Et chose très très paradoxale, ce sont les Noirs d'Amérique qui ont tiré la sonnette d'alarme. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, voilà donc ce qu'a dit le ma.
Vous ne franchissez pas la responsabilité des
personnes. Alors, je finis avec Monique, tu avais fait poser la question. Donc, je reprends avec Monique. Je dis, mais puisque c'est comme ça que ça fonctionne, pourquoi on les punit? Et Monique répond, parce qu'ils ont frappé trop fort, ils ont exagéré. Ça veut dire qu'il y a une réaction de xénophobie. Donc, c'est naturel. Mais pourquoi cette méchanceté? C'est pour ça qu'ils ont été punis. Est-ce que c'est clair? Et ici, d'ailleurs, un verset à propos de Babel. Il y a un verset des prophètes qui dit « Babel est comme une verge, on est dans la main de Dieu pour frapper Israël. Mais la verge sera brisée parce qu'elle a frappé trop fort. » Alors, ça c'est jusque-là Maïmonide. Et moi, je me suis posé une question sur Maïmonide et je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si j'ai le droit de lui donner des cauchemars. C'est que le raisonnement de Maïmonide est très beau, mais ça concernerait des anges. Les Égyptiens étaient des Égyptiens. Est-ce que Maïmonide pense que les Égyptiens étaient des anges? Quand il y a une minorité étrange, qui s'entête à dire c'est moi l'Égypte, et il faut dire, bien sûr, vous êtes vous les Égyptiens. Ils ont réagi comme des hommes, pas comme des anges. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Et alors il faudrait avoir affaire à des anges pour poser la question. Donc, pour le moment, je n'ai pas de réponse. Et donc, je me permets de dire que l'explication de Maïmonide est très forte, mais elle n'arrive pas à résoudre le problème. Parce qu'il reste que les Égyptiens ne sont des Égyptiens. Et je ne sais pas comment dire cela. Il y a eu différentes occasions où Israël aurait dû décrocher de l'Égypte, mais s'est entêté à rester en Égypte. Et on a, d'une certaine manière, raté le coche. Bon, et on ne peut pas être Hacham Aharim Aasé, mais il est bien clair que ce schéma explique ce qui s'est passé en Europe avant la Shoah. On s'est entêté à une symbiose caduque, préhistorique, qui avait déjà réussi à peu près au XIe siècle. Et alors, vous allez me donner le Torah Tmima de Dvarim. Je vais vous citer un enseignement de Torah Tmima là-dessus. Est-ce que mes clés sont chez moi ou... Elles sont là, après. Bon, le Torah Tmima ne va pas situer ça au XIe siècle, mais on pourrait le situer au XIe siècle. Parce que c'est le temps de la réussite de la symbiose judéo-européenne avant le Moyen-Âge. Alors attendez, je me retrouve ce verset, Karet Yamer. Ça se trouve dans une minute. Dans un zinou, mais une minute. Hein.
Est-ce qu'on pourrait dire que Babel fait partie de ces peuples oppresseurs qui ne sont pas allés trop loin?
Au contraire. Nous avons des psaumes terribles sur Babel. Ils sont allés...
Quel peuple n'est pas allé trop loin?
Tous, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception aux Hébreux. Moi, personnellement, je suis très inquiet pour les Juifs de l'étranger. Vous savez, chaque fois que je vais à Paris ou ailleurs, d'ailleurs, inévitablement, j'ai un cousin, un ancien élève, un rabbin qui me dit « Ah, si vous savez comment on pense à vous, on est inquiet. » Avec l'accent tunisien, en général. Et alors, je leur réponds froidement... Mais vous ne savez pas que c'est nous qui sommes inquiets pour vous. Et bien, ils le savent, ils le savent. Ils savent qu'ils sont sur un volcan, mais ils font comme si... Eh bien, écoutez, ça éclaire les Hébreux d'Égypte. Et les Hébreux d'Égypte éclairent ça. Reposez la question après, qu'est-ce que vous voulez dire?
S'il y a une universalité sociologique de la minorité qui apparaît comme un corps étranger dans tout corps majoritaire, en quoi y a-t-il une spécificité particulière?
J'ai fait allusion tout à l'heure, c'est le fait qu'on s'entête à l'être étranger tout en se prétendant plus autochtone que les indigènes. Et alors là, je profite de votre question pour aller plus loin, c'est parce qu'en fait, l'identité Israël est universelle. En réalité, profondément, nous sommes chez nous partout. C'est ce que les Goïms ne sauront jamais. Vous savez, c'est pas un mystère. Et Dieu l'a dit dans la Torah, « Qui lit Kolaret ?» Ce n'est pas seulement tout Eretz Israël, c'est toute la terre. Répétez pas ça, hein, à l'étranger. Et, d'ailleurs, relisez le premier Rachid sur Bereshit. « Kouach ma'asa v'gid le'amou, l'azid la'im nahalad goïm » C'est le mot entier. Il y a vraiment dans l'identité d'Israël une dimension de l'universel qui est réelle. Mais malheureusement, chez les Juifs de diaspora, elle se transforme en cosmopolitisme. Vous savez, il y a très peu de Juifs qui sont réellement universalistes. Pour ça, il faut être membre de sa propre nation pour être capable d'être universel, à l'échelle universelle. Mais cosmopolite, c'est tout à fait autre chose. Alors lorsque les Goïms sentent ça, il y a une analyse marxiste sur l'anticosmopolitisme juif. Mais les marxistes ont raison. Parce que les Juifs prétendent qu'ils ne sont pas une nation, donc ils ne sont pas universels, ils sont cosmopolites. Je ne sais pas si c'est clair l'analyse. Et alors, je reviens d'ailleurs à votre question. En fait, c'est vrai, l'identité Israël est une identité universelle, ce n'est pas pour rien. Que chaque fois qu'un Juif va ailleurs, n'importe où, il est chez lui. Il le ressent. C'est pas une façon de parler. Vous savez, j'ai compris cela avec deux manières d'être juif que j'ai connues très intimement, les Algériens et les Alsaciens. Il n'y a pas plus Algérien qu'un Algérien, il n'y a pas plus Alsacien qu'un Alsacien, juif, je veux dire. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est vrai aussi pour les autres, je suis persuadé. Enfin, c'est les deux expériences que j'ai eues le plus profondément. Mais il est bien évident que dès qu'un Hébreu se trouve quelque part, c'est les gènes correspondants au paysage prennent le dessus. Et je reviens du Maroc. Eh bien, in extremis, parce que si j'étais resté là-bas un jour de plus, n'ai aucune idée à quel point les Juifs marocains sont marocains. C'est même effarant. N'ai aucune idée à quel point les Juifs tunisiens sont tunisiens. C'est effarant. Et les Juifs français, ils sont froncés jusqu'aux sourcils. Bon, eh bien, c'est vrai, parce qu'il y a dans l'identité juive, parce qu'hébraïque, une dimension d'universel qui est réelle. Et alors, c'est la raison pour laquelle, quand ça fonctionne, ça peut avoir des ratés. Vous savez, le fond du problème, le fond du problème, c'est pas tellement qui a raison, le juif de diaspora ou le juif israélien, c'est dans quel temps on se trouve. Est-ce qu'on se trouve dans le temps de Joseph? Alors c'est Joseph qui a raison. Est-ce qu'on se trouve dans le temps de Moïse? C'est Moïse qui a raison. Mais Joseph et Moïse, c'est le même homme, inversé. Joseph est un Hébreu qui s'habille en Égyptien, Et lui, c'est cet hébreu habillé en égyptien qui enlève l'habit égyptien. Mais tous les deux sont à leur place, en leur temps. Est-ce que c'est clair? Et vous avez remarqué pourquoi Moïse ne peut pas quitter l'Égypte s'il n'emporte pas avec lui les ossements de Joseph. Parce que s'il s'en va en laissant les ossements de Joseph en Égypte, il disqualifie Joseph. Et il ne peut pas sortir. Voilà. Ce qu'il faut récupérer, c'est cela. C'est que la dimension universelle de l'identité juive est réelle. Elle vient de son identité hébraïque, mais que la plupart du temps, est humide. Au moment des sorties d'exil, elle devient cosmopolite. Et c'est très grave. Vous savez ce qui se passe en Israël actuellement? Je ne sais pas si vous sentez que cette semaine, c'est un tournant historique pour Israël. Je n'avais pas l'impression de vous parler de ça. On en parlera une autre soir quand tout le monde sera là. Mais à différents niveaux. Mais en fait, c'est que il y a un rassemblement de juifs qui a fait l'État d'Israël. Et jusque la semaine dernière, je crois que c'est une date, des Pourim. Il y a eu la guerre du Golfe et il y a eu ce Pourim-là. Eh bien, il y avait deux facteurs qui nous ont masqué le fait qu'il y avait différentes motivations de ce rassemblement qui sont incompatibles l'une avec l'autre. Et qu'on appelle le sionisme. Mais ça a des dimensions très différentes. Les deux facteurs qui ont empêché de voir ça, et ça s'est dévoilé maintenant, grâce aux Arabes palestiniens, aux Arabes israéliens, pas aux Palestiniens. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Ben, c'est que c'était une société assiégée. La société israélienne était une société assiégée. Et la solidarité des membres d'une société assiégée masque les différences. Et puis, deuxièmement, il y avait la jubilation de se retrouver 2000 ans après des rescapés de 120 exils. Ça a joué de manière telle qu'on ne s'est pas rendu compte, enfin on s'est rendu compte, mais on ne se rendait pas compte qu'il y avait différentes motivations de ce rassemblement sioniste. Alors je vais dire très très schématiquement, et c'est vraiment très schématique. Il y avait d'abord des juifs, les principaux fondateurs du mouvement sioniste politique, qui ont fait un diagnostic au siècle précédent que même l'assimilation, dans le sens positif, l'émancipation, ne pouvait pas sauver l'identité juive. Et que pour pouvoir sauver l'identité nationale juive, il fallait se déjudaïser en hébreu. Je ne sais pas si vous comprenez l'analyse du sioniste Riloni. Pourquoi il y a des sionistes Riloni? Eh bien, ça c'est un premier sionisme. Un deuxième sionisme, c'est les sionistes religieux. C'est ceux qui se sont rassemblés en Israël comme sionistes pour pouvoir être enfin vraiment juifs. Pas se déjudaïser, mais s'hébraïser comme juifs. Et c'est très différent, ça n'a rien à voir. On est alliés, mais pas plus. Puis il y a une troisième branche, c'est les Haredim. Ceux-là refusent le sionisme de l'État juif, mais vivent la vie israélienne, à leur manière d'ailleurs, pour le privilège qu'elle donne d'habiter la Terre Sainte. Et ils ne s'en cachent pas. Et ils ne s'en cachent pas avec un cynisme total. Et puis quatrièmement, vous avez toute une série de juifs cosmopolites, irrémédiablement cosmopolites, même en hébreu, et ils ont pris le pouvoir aux dernières élections. Ça y est, c'est clair. Avec la complicité des autres. Avec la complicité et des Haredim, et des sionistes religieux, et des Chilonim. Mais c'est les juifs cosmopolites qui ont pris le pouvoir en Israël. Et alors voilà le problème. C'est cette décantation qu'il va falloir faire. Parce que ce qui s'est dévoilé, c'est, je dirais, grâce aux Arabes israéliens, c'est qu'en fait, on a camouflé le fait que c'était un État binational et pas un État juif. Vous avez remarqué que depuis les dernières élections, il y a une présence de la culture arabe officielle qui démasque ça. Et par conséquent, on est sur le bord d'une période tout à fait autre du sionisme. Le premier sionisme, comme Arnaud. C'est vendredi dernier que ça a pris fin. Et ce qui se dévoile, c'est tout à fait autre. Alors en tout cas, très probablement, je n'ai pas du tout parlé de l'événement qui s'est passé vendredi, c'est un autre sujet. Mais très probablement, il va y avoir des élections et un changement de régime, pas un changement de gouvernement. Le problème, l'enjeu, ce sera est-ce qu'on fera un État juif ou un État binational? Voilà, vous voyez quel est l'enjeu. Et c'est là-dessus qu'on va se compter. C'est-à-dire la halouka habituelle des partis classiques va être complètement bouleversée par le véritable problème qui est celui-là. Et déjà, les sionistes chilonim s'en rendent compte. Certains ont choisi pour l'État binational et d'autres résistent. Mais je pense qu'il y aura une alliance inattendue entre les haredim et les sionistes religieux pour éviter que ce soit un État binational. Bon, mais ça, c'est un souhait. On sait jamais avec les juifs religieux. Alors, en tout cas, voilà, très, très, très grosso modo, ça se branche sur la définition de l'identité juive cosmopolite. Qui était l'attente souterraine dans la société israélienne qui a été fondée pour expulser ça de l'identité juive. Et finalement, ce sont les juifs cosmopolites qui ont pris le pouvoir. Vous voyez à quelle bande je fais allusion. Okay. Bon, en tout cas, on continue quand même, qu'on finit au moins la première page. Et comme d'habitude, vous allez prendre l'autre à la maison et faire vos chiots les baïtes avec. Alors je finis en tout cas là. Et où est-ce qu'on est arrivé? Uchilou, on est à la cinquième ligne là. Uchilou, Shaya, Shem, Avdut, Al Israël, Bitrila, Ledatam. Tout se passe comme si, nous dit le Maharal, l'intitulé esclavage était sur Israël depuis le début de leur naissance, comme l'esclave qui est Yelid Bait Ladonab, qui est appelé Yelid Bait, né de la maison. C'était littéralement domestique du domus de son maître. Car Israël, Shenolad, Beretz Misraïm, ainsi Israël, Shenoldou, qui sont nés dans le pays d'Égypte, Ayuréouim, Niyot, Meshouvadim, étaient donc destinés, inévitablement, comme on l'a vu tout à l'heure, à être asservis, Veraou, Niyot, Massa, Misraïm, Aleem, et il était inévitable que la charge de l'Égypte soit sur eux. Et ceci vient du côté d'Israël par eux-mêmes, qui étaient comme des domestiques dans le sens étymologique de l'Égypte. Par rapport à cela, il a dit je vous ferai sortir, de dessous les fardeaux de l'Égypte. Il veut dire en disant Siblot, Massa, la charge de. C'est-à-dire de la même manière qu'un esclave est chargé de son maître. Shaya, Moutal Alev, la charge qui leur était dévolue. Vérod nous s'affasé, et en plus de cela, Shayu Baïm Amitrim, Sharbedam, que les Égyptiens les ont asservis, Bechoar, par force, les travaux forcés, non seulement les travaux, mais travaux forcés. De Oumitsad Mitraïm, et ça venait du côté des Égyptiens eux-mêmes, de l'Égypte elle-même, chez Ayur Rotsim, les Charbedam et Koar. Vous voyez ce qu'on a dit tout à l'heure avec Maïmonide, qui ont voulu les asservir avec force. Ça, c'est leur méchanceté. Bon, et ça, j'ai la même question. Mais ce ne sont que des Égyptiens, ce ne sont pas des anges. Il faut être vraiment des chassidou motarolam pour ne pas tomber dans l'antisémitisme, à partir du moment où ça fonctionne. Vous avez compris le problème? Par rapport à cela, il a dit je vous délivrerai. Ça ressemble à un homme par rapport à qui quelqu'un d'autre vient avec force. Ou et quelqu'un d'autre vient pour l'en délivrer. Un prisonnier ne peut pas se délivrer tout seul. Comme pour dire je vous sauverai de dessous la mainmise de l'Égypte. Les Galtes y étaient, mais je vous délivrerai. Ratzaloma afalgav, chez l'Orient Mishubadim. Il veut dire que même si déjà l'asservissement avait cessé, Enam Benechorim, ils ne sont pas déjà encore libres. La Rasot Mashirtsu, de faire ce qu'ils veulent. Shahe Hem Birshut Aherim, puisqu'ils sont sous la dépendance d'autres. Ve Alzehama, et c'est pour cela qu'il dit, les Galtes y étaient, je vous délivrerai. Ve Adaim, et là encore, à Falgav chez Migalou, bien qu'ils ont été délivrés, Elmaïm Amarala, ils n'ont pas le niveau, l'Iotam Leram, d'être un peuple, l'Hachem, pour Dieu, ou Fira Ramar, et c'est pourquoi il dit, Velakarti et Trémi Leram, je vous prendrai pour moi comme peuple. Ulkaman et Rachnouyotir Bazé, Bécham Akonébouar, et plus loin, c'est expliqué encore plus en détail. Plus loin, c'est la situation où vous avez photocopié. Je me doutais qu'on n'y arriverait pas. Enfin, prenez-la et vous l'étudierez, ne serait-ce que le sort de Pessah. Ken ?
J'ai une question. Comment est-ce qu'on peut être universel
de
la terre de notre propre appartenance?
Attends.
Comment peut-on être universel sur la terre de notre propre appartenance?
Sur la terre de
notre propre appartenance, ici en Israël.
Oui.
Et sur celle de notre différence, si notre identité est celle du monde, comment est-ce qu'on peut être universel entre juifs? C'est un truc cosmopolite.
Et je vais vous dire, précisément, d'une part, dans le rassemblement des exilés, on ramène les différentes manières d'être homme. Et puis le résultat, c'est la reconstruction de l'identité hébraïque. Et l'identité hébraïque à l'origine est une identité universelle. Je vous ai dit, à contrario, comment ça se perçoit dans l'exil de cette identité hébraïque. Quand elle éclate, elle réalise l'identité mixte judéo-quelqu'un d'autre à l'échelle de l'universel. Mais les juifs risquent de devenir cosmopolites parce qu'ils ne retiennent que l'équation personnelle du judéo-quelqu'un d'autre ou le leur. Est-ce que vous avez compris? L'israélien, comme tel, est censé être un homme universel. Mais pour ça, il faut qu'il se déjudaïse dans le sens sociopolitique. Pas dans le sens religieux, mais dans le sens sociopolitique. S'il reste tribal, il est cosmopolite, tout en étant israélien. Vous avez compris le problème? Je pense que c'est suffisamment clair. C'est-à-dire qu'il y a trop de juifs en Israël, trop de juifs encore, pas assez d'hébreux. C'est un pays plein de juifs.
Le risque justement de devenir cosmopolite, est-ce que c'est pas justement beaucoup plus qu'un risque puisque ça s'est passé à chaque fois? C'est-à-dire que moi je me pose la question, est-ce que c'est pas presque inéluctable? Et à ce moment-là, on peut se poser la question de sur la règle du jeu, est-ce qu'elle n'est pas un peu faussée?
Alors je reprends l'image de l'accouchement. Vous savez comment se prépare une naissance? À un certain stade du processus, il y a une distinction entre l'embryon et le placenta. Voilà peut-être ta réponse. Et il y a des juifs qui sont des juifs placentaires. Ils cherchent une place en terre. Il y a une fonction du placenta. Et c'est ça. Et c'est énorme. Mais ça nous est dit en clair dans les sources. Et la même cellule peut choisir, et c'est un mystère, soit être, devenir une cellule de l'enfant qui va naître, ou rester une cellule du placenta.
Mais elle n'a jamais bien choisi.
Ah, il y a une proportion. Une proportion inéluctable, c'est celle de fameux 1/5, lorsqu'on se laisse aller aux événements. Or, c'est malheureusement ce qu'il y a d'apparence de fatalité. À partir du moment où le peuple juif se laisse aller aux événements, ça fonctionne. Et c'est ce qui est arrivé à la sortie d'Égypte, c'est ce qui est arrivé à la sortie d'Europe. On s'est laissé aller aux événements, on a démissionné de la liberté hébraïque, et on était juifs des goïms, alors ça a fonctionné de cette manière-là. Et alors, nous sommes encore au stade où il y a, si vous voulez, une vocation du juif placentaire, comme je vous ai dit. Je crois que cette cassette, il ne faut pas la diffuser. C'est plein de cauchemars. Mais qui nous encombre. Moi, je suis admiratif devant la patience des goïms. Moi, je crois que si les juifs ont la science, les goïms ont la patience. Sans jeu de mots. Okay. Il y a d'ailleurs un verset des psaumes qui me revient chaque fois à l'esprit dans l'enseignement du Rav Kook. Aide-moi. Atzil Nina. Donc, Migo et Lochasid. Mi Ish Mirma Ve'Avla Tefaletem. Le verset des psaumes dit ceci. Sauve-moi d'un goy qui serait pas chassid et délivre-moi d'un homme de perversité. Alors, Rav Kook expliquait. Si on a affaire avec un goy, il faut se méfier. S'il est pas chassid, on est perdu. C'est pour ça qu'on parle des chassidim au Mataolam. Mais par rapport aux juifs, c'est Ish, Mirma, Ve'Amla, les hommes de ruse et d'iniquité. Alors c'est ça le problème. Si on se laisse aller, eh bien voilà ce qui se passe. C'est voilà le sens des événements qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous rendez compte, nous avons énormément de sources. Le Hafouk les a rassemblés en son temps, avant que l'État d'Israël n'existe. Vous avez toute une tendance de la société israélienne qui est d'une cruauté absolue pour les Juifs et d'une complaisance absolue pour les ennemis des Juifs. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Oui ? Eh bien, c'est ce verset qui fonctionne. Hein. Alors, vous voyez, je crois que la question est importante. Ça veut dire que ça ne devrait pas être comme ça. Ça a l'air d'être de la fatalité. Or, l'histoire d'Israël, ce n'est pas une histoire grecque. Mais c'est que les Juifs ont abdiqué, ils se sont laissés aller aux mécanismes des événements. Alors les mécanismes des événements jouent, tout simplement. Mais, enfin, on ne peut jamais prédire l'avenir, ni immédiat, ni lointain. Mais ce que nous savons d'après les textes, c'est qu'on s'en sortira. Mais à quel prix ? Ça, c'est encore une autre histoire. C'est-à-dire, il y a actuellement un mécanisme qui s'est mis en place et qui fonctionne jusqu'au moment où ça va éclater. Mais ça va éclater. Bon, j'espère que je vous ai rassuré.
Chaque fois qu'on s'en est sorti, il a fallu un manig.
Il a fallu. Et qui vous dit qu'il n'y a pas un manig ? Moi, je suis toujours très inquiet de découvrir que, à force de se méfier des idolâtries, de la manière des goyim d'être croyants, les Juifs finissent par devenir athées. Mais il y a un chef d'orchestre. Ah, c'est tout. Je ne sais pas si c'est clair. J'ai connu de grands penseurs juifs qui craignaient de croire, parce que croire pour eux, ça voulait dire à la manière des goyim. Alors, c'est très grave ce à quoi je fais allusion. Ça veut dire qu'il y a très peu de juifs croyants du Dieu d'Israël. Il y a beaucoup de juifs athées, des idoles. Ils ont jeté une idole, ils appellent ça le Dieu des Juifs. Vous savez que le peuple juif a inventé toutes les hérésies du monde, c'est sorti de nous. Et actuellement, nous avons des juifs très respectables d'apparence qui sont en train de nous inventer le judaïsme. C'est la dernière des hérésies. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, tous les ismes, c'est sorti de chez nous. Même l'isme de Suez. Bien. Alors, on se voit donc quand c'est mercredi demain. On se voit donc demain et la semaine prochaine. Alors, vous n'avez pas dit qu'est-ce que vous voulez qu'on étudie la semaine prochaine ? La cinquième coup. Une fois, deux fois, trois fois. Bien. Tiens, tu veux remettre ça.